un expresso s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super de belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi, relax, prends-toi une tasse puis viens faire le plein. C'est parti! On est de retour avec Marie-Ève Brouillette, qui est infirmière en périnatalité, consultante en lactation, qui est maman de 4 enfants aussi, accompagnante à la naissance, fondatrice de Symbiose. Finalement, Marie-Ève, tu as pas mal de titres, hein?
Exactement. Je suis quelqu'un qui est très passionné de périnatalité et qui a réussi à réunir toutes ces passions-là dans mon entreprise Symbiose pour un peu partager cette expertise-là aux familles, finalement.
Écoute, on va poursuivre le sujet de l'allaitement, des mythes de l'allaitement par rapport au cannabis puis par rapport à l'alcool. Hein, quand on ingère de l'alcool, c'est quoi les impacts que ça peut avoir? Ben, premièrement, est-ce que ça passe dans le lait? Est-ce que le cannabis qui est fumé de la maman, ben, quel impact ça va avoir sur son enfant? Est-ce que l'enfant, ça va se retrouver dans son lait? Est-ce que ça va se retrouver finalement dans son sang? Fait que, allons-y. Toi, Cathy, t'en penses quoi, justement?
Ben écoute, moi, j'ai quand même, tu sais, comme pris de l'information au niveau de la Ligue de la laitue. C'est l'information, selon moi, la plus, ben, peut-être à jour et probante en matière d'allaitement. Mais je me questionne quand même. Moi, j'ai quand même des doutes parce que ce que j'ai entendu, c'est que tant que tu es capable d'aligner bébé, tu peux, c'est correct, tu peux l'allaiter. Tant que tu es capable de le mettre au sein, ça veut dire que tu es en mesure de l'allaiter. Donc, c'est clair que pour moi, ça manque de nuances. fait que moi, c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Je suis allée chercher quand même mes sources, mais je sais que Maria va nous éclairer davantage.
Oui, et en fait, c'est un sujet qui est vraiment important. Puis là, tu sais, souvent, on en parle dans le temps des fêtes, mais en fait, on devrait en parler aussi à période estivale parce que le petit cocktail, puis la coupe de vin du vendredi soir, puis la bière autour du feu de camp, puis pour certains, ben c'est le joint aussi autour du feu de camp. C'est la réalité de nombreux parents québécois. C'est un sujet qui est particulièrement tabou. Puis tu sais, moi, je tiens à dire de prime abord là, que comme professionnelle de la santé, je me positionne pas ni en faveur ni contre la consommation de ces substances-là. Le problème que j'ai, en fait, c'est que les gens sont pas informés dans leur prise de décision. Fait que c'est là qu'aujourd'hui, j'espère qu'on va être capable de remédier un petit peu à la situation puis de donner des outils concrets pour que les gens prennent leur propre choix, finalement.
Puis là, rappelons-nous que nous sommes en déconfinement.
Oui.
C'est beau, on a le goût de voir du monde, on a le goût de festoyer un petit peu. Fait que c'est sûr que le petit joint sur le bord du feu, d'après moi, il est agréable pour une couple de personnes du Québec. La coupe de vino également. Moi, j'ai vraiment hâte d'en prendre une avec vous autres, les filles. Fait que à partir du moment où est-ce qu'on allaite notre petit bébé, il se passe quoi, là, Marie-Ève?
Commençons par la base, la fameuse grossesse, parce que c'est important, là, on va commencer par l'étape 1, hein, avant d'allaiter. Règle générale, on est enceinte. C'est possible d'allaiter si on n'a pas été enceinte, mais ça serait un autre sujet. Donc, la grossesse et la consommation de cannabis, à l'heure actuelle, c'est un gros non, parce qu'on n'a aucune vraiment donnée significative. Fait que le gros non, ce qu'il veut dire, c'est de s'asseoir avec un professionnel de la santé puis d'en parler de long en large pour prendre une décision éclairée, ce qu'on ne va pas faire ensemble aujourd'hui. Par contre, pour ce qui est de la grossesse et de la consommation d'alcool, ça, on en a beaucoup des données. Puis il faut comprendre que, tu sais, il y a vraiment des études qui ont démontré l'impact de la consommation d'alcool en continu ou du moins en grande quantité sur le développement du bébé. Puis là, ben, il y a des gens qui ont comme tendance à mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'ils vont comme confondre le syndrome d'alcoolisme fœtal du nouveau-né avec le bébé allaité que sa mère prend une coupe de vin. Donc là, faut vraiment faire une nuance. Ce qu'on s'apprête à parler aujourd'hui, c'est chez la femme allaitante et non pas chez la femme enceinte. Et les recommandations de un s'appliquent pas à l'autre étape qui est la grossesse.
Et Marie-Ève, dans les années justement où j'ai fait ma formation d'accompagnement à la naissance, tout ça, on était encore à l'époque où on ne savait pas on ne savait pas justement quelle quantité d'alcool la femme enceinte, comment je pourrais bien dire ça, quelle quantité d'alcool pourrait avoir des impacts sur le fœtus finalement. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur ces données-là? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Parce qu'à l'époque, on ne savait pas quelle quantité d'alcool pouvait être néfaste là, pour l'enfant à naître finalement.
Bien, en fait, on en sait plus, oui puis non. Ce qu'on sait plus, c'est tous les facteurs d'influence sur comment la mère va métaboliser la molécule d'alcool. Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alcool, on le consomme, on ne se le met pas dans les veines directement. Fait que c'est l'estomac, on le prend par l'estomac, on le digère, puis après ça, ça va dans nos veines, la molécule active, là, l'éthanol, ça va dans nos veines, puis c'est ce qui fait qu'on a un effet. Donc, le métabolisme, la digestion de la molécule varie beaucoup d'une femme à l'autre en fonction, entre autres, de sa taille, de son poids, de la prise de d'autres médicaments, même son taux de cholestérol dans le sang va avoir un impact sur ça. Donc, les études nous ont permis de démontrer qu'il y a plus de facteurs qu'on pensait à considérer. Donc là, ça fait juste un peu de concrétiser la recommandation qui est zéro parce que comme on n'est pas capable de déterminer hors de tout doute comment la maman métabolise au moment où est-ce qu'elle consomme l'alcool, la quantité qu'il va avoir dans son sein versus qu'est-ce que bébé va recevoir versus les effets, bien là, on aime mieux, tu sais, dire, garde, allons-y pour le risque zéro, c'est abstinence pendant 9 mois. Fort heureusement, on peut se reprendre une fois que bébé est au monde.
Oui, puis aujourd'hui, il y a tellement d'alcool, de boissons qui sont non alcoolisées. Je veux dire, maintenant, là, il existe tout un marché là, à ce niveau-là. Fait qu'il y a quand même moyen d'avoir du plaisir en consommant des boissons qui ressemblent hein, drôlement maintenant à des bières, à des vins, à des cocktails. Fait qu'il y a moyen quand même d'avoir sa petite dose festive, même si on est durant la grossesse.
Absolument. Les mocktails.
Mm-hmm. Je vous recommande, les femmes, si vous aimez le vin blanc, le Nature et Eau sans alcool, il est écœurant, j'en ai bu pendant mes 4 grossesses. Voilà, c'est dit. Et là, Marie-Ève, si on parle de l'allaitement et de l'alcool, c'est quoi les données? C'est quoi la routine qu'on doit avoir finalement? Parce qu'il y a souvent des mamans qui nous disent, ben là, faut-tu que j'allaite pendant que je prends mon verre? Là, il y a le mythe ou la réalité du 3 heures, que si c'est dépassé 3 heures, faut que tu jettes ton lait. Où c'est qu'on s'en va avec ça?
Oui, on va essayer de faire un petit ménage là, dans tout ce qui circule sur le net. Donc, ben, la base, c'est de comprendre que oui, bébé va recevoir une partie des molécules d'alcool que maman a consommées. OK? Ça, c'est une affirmation positive, ça a été étudié, il y a vraiment un transfert qui est fait. Ce transfert-là va être proportionnel à la quantité d'alcool qui est retrouvée dans le sang de maman. Donc là, on vient de voir, quand on a parlé de la grossesse tantôt, que cette quantité-là a beaucoup de facteurs qui vont influencer. Tu sais, il y en a-tu beaucoup, pas beaucoup? Puis tu sais, les mamans là, qui nous écoutent, probablement s'ils ont déjà fait un 9 mois d'abstinence de prendre un verre enceinte puis qu'ils ont pris un premier verre après, se sont rendus compte que en bon québécois, ça coûte moins cher ce soulier. Hein? Notre capacité, notre résistance est vraiment à la baisse. Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer le transfert de cette molécule-là dans le sang et éventuellement dans le lait. Par contre, c'est pas vrai de dire que le taux dans le lait est équivalent à celui du sang, c'est moindre que ça. Fait que là, on pourrait se dire, hey, ben, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que mon bébé, il en reçoit vraiment pas beaucoup. Oui, mais il faut se rappeler que bébé n'est pas un adulte. Bébé est un bébé. Donc, bébé a premièrement un foie qui est particulièrement immature, foie qui est responsable d'éliminer la molécule d'éthanol. Et bébé a aussi un cerveau en construction. Donc, même si les quantités d'alcool qu'il va recevoir sont de plus petite importance que la maman, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact chez l'enfant. Donc, première chose à considérer. Là, par contre, on pourrait se poser la question, après combien de verres que là, ça devient un problème finalement? Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux?
Ben écoute, moi, j'ai peur, vraiment peur de m'avancer là-dedans, mais de ce que j'ai entendu et retenu de mes formations en marraine d'allaitement, c'est qu'il y avait, ben là, on était sur le bord là, de découvrir avec le docteur Newman là, qu'il y avait 5% du pourcentage de ton taux d'alcool qui était ingéré par, qui était qui allait passer dans le lait, qui allait être ingéré par l'estomac du bébé, qui allait être ensuite reconnu comme un peu dans son sang. Donc, si tu bois une bière, le pourcentage du 5% de 5,6% de ta bière, c'est presque nul, finalement. Que ça n'allait pas vraiment se retrouver dans le sang de ton enfant. Est-ce que je suis dans le champ?
Oui.
Je suis dans le champ?
Oui.
Oh mon Dieu! My God! Mais, sérieux?
Mais moi, je vais y aller simplement. Moi, j'ai toujours pensé que la modération avait bien meilleur goût. Fait que je vais sticker avec cette nuance.
Fait que cette étude-là est fausse.
Elle n'est pas fausse, OK, mais elle n'a pas été suffisamment nuancée. OK? Donc, tu sais, tu n'inventes pas tout ça. Tu n'as pas fait un rêve que tu viens de nous raconter à l'état éveillé. Là. C'est ça a vraiment été vu. Je
partage la bonne nouvelle depuis des années, là, moi, là.
Bien, en fait, tu sais, ce que tu viens de partager, c'est un petit peu ce que j'ai dit d'entrée de jeu. C'est-à-dire que c'est pas vrai que bébé reçoit la même quantité que maman, puis que cette quantité-là, elle est vraiment, vraiment moindre. Mais elle n'est pas nulle. Et il faut considérer la quantité versus qui est-ce qui reçoit cette quantité-là. Toutes les caractéristiques du bébé sont à considérer. Donc, on a parlé du foie, du cerveau. On pourrait parler de l'âge du bébé. Est-ce qu'on a un bébé qui est très jeune? Est-ce qu'on fait face à un prématuré? Est-ce qu'on a un bébé qui a des problématiques de santé ou qui prend des médicaments? On pourrait aussi penser à est-ce que mon bébé, il boit beaucoup, pas beaucoup? Tu sais, s'il boit trois fois après que j'ai pris ma bière, c'est-tu moins pire que le bébé qui boit aux quatre heures? Fait que, tu sais, il y a plein de facteurs comme ça qui vont venir nuancer la quantité d'alcool que mon bébé va recevoir. Concrètement, là, ça va faire quoi là, si mon bébé reçoit des molécules actives comme ça d'alcool au moment où je suis allaitante? Bien, si c'est une consommation qu'on va dire occasionnelle peut être très variable d'une maman à l'autre. Donc, on va se fier sur les recommandations là, québécoises là, au niveau de l'alcool. Donc, on pourrait dire, mettons, une consommation ou deux par fin de semaine, mesdames. Ça serait dans le occasionnel pour une femme allaitante. OK? Si c'est une consommation comme ça, à ce moment-là, l'impact va surtout être au moment même de la prise d'alcool que l'enfant va avoir des impacts. Quand on compare ça avec une maman qui va prendre l'alcool sur une base plus régulière, plusieurs fois dans une semaine sur une longue période, pas juste une semaine l'été en vacances au camping, les vacances de la construction, deux semaines, on en boit un peu plus, on n'est pas là, là. On est vraiment sur une consommation sur plusieurs semaines. Mais là, à ce moment-là, l'impact ne va pas être juste immédiat, il va être vraiment au long terme sur le développement de l'enfant. Donc, on va avoir des troubles au niveau du développement moteur, un impact vraiment sur son cerveau. Puis sur son gain de poids aussi, qui va avoir tendance à être à la baisse. Donc, des plus petits poids. Donc, ça, c'est vraiment sur du long terme. Par contre, sur le moment même, quels seraient les impacts chez le bébé si maman prend un verre de vin?
Ben moi, je t'aurais dit de la somnolence, peut-être, un état moins éveillé.
Un peu comme maman qui vient de prendre une coupe de vin, finalement.
Oui, puis tu sais, peut-être un bébé qui est moins apte à téter, peut-être, à cause de ça.
Toi, Annie, ça te faisait quoi après avoir pris une coupe?
À moi?
Oui.
Une coupe, écoute, moi, ça m'en prenait pas bien ben pour que je sois un peu étourdie, là.
Puis ton bébé?
Ben, écoute, moi, je faisais beaucoup attention Puis je sais pas si c'est un mythe ou une réalité, là. On dirait que je suis flabbergastée de t'entendre parce que je me dis « Aïe, j'ai propagé des nouvelles qui n'étaient pas tant vraies. » Alors, je m'excuse aux filles à qui j'ai donné les dites informations. Mais souvent, tu sais, quand je prenais un verre de vin, tu sais, je savais que mon enfant était comme 7 heures, mettons, aux 3 heures ou aux 4 heures. Fait que ça, tu sais, personnellement, puis tu sais, moi, je n'étais pas dans le mood de prendre un verre. De toute façon, je ne suis pas une buveuse active là, dans ma vie. Moi, avant 3-4 mois, là, quand ton bébé boit un peu n'importe quand, n'importe comment, ça ne faisait pas partie de ma routine de prendre un verre de vin. Là. Fait que, tu sais, souvent, c'était plus aux 3-4 heures où est-ce que je savais, tu sais, que si je partais aller au restaurant, je buvais mon verre, puis que probablement que papa avait eu le temps, tu sais, de lui donner un biberon, puis que là, ben j'aurais pu tirer mon lait, puis après ça, me coucher, là. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être pas été à l'aise nécessairement, là. Je sais pas.
OK. T'amènes plein de belles nuances, là, qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Donc, en fait, Cathy avait raison. On pourrait avoir un bébé qui va être plus somnolent si on consomme de l'alcool. Ça peut être une bonne nouvelle pour papa-maman un vendredi soir qu'on vous laisse détendre, mais il faut dire que cette réaction-là est plutôt rare chez nos enfants. Ce qu'on va plus voir, en fait, c'est un bébé qui va être plus irritable. Irritable, en fait, parce que l'alcool est difficile à digérer. Nombreuses personnes pourraient se rappeler les effets digestifs d'un lendemain de veille sur votre système. Donc, notre bébé va avoir des maux de ventre, là, que certains vont appeler des coliques, mais d'autres vont appeler ça des maux de ventre. Mais, bref, ça va causer de l'irritabilité chez notre bébé, au final. Fait qu'au final, maman, papa pensaient d'être calme et détendu après un bon souper en amoureux, puis la soirée va peut-être être autrement. Mais ça, il n'y a pas vraiment de façon de le savoir avant de l'avoir essayé. Et un petit peu ce qu'Annie vient d'expliquer, tu sais, on peut aussi jouer sur le moment où est-ce qu'on prend la consommation versus le moment de l'allaitement. On va explorer ça tantôt. Mais chose certaine, c'est une des incidences qu'on peut avoir chez notre bébé. L'autre chose, en fait, c'est qu'on pourrait avoir un bébé qui est plus irritable parce qu'il va avoir un moins bon transfert de lait au sein. Donc là, ça nous amènerait à un autre mythe que moi, j'entends souvent, c'est que l'alcool fait en sorte qu'on fait plus de lait. Donc, on entend parler là, depuis longtemps de la levure de bière, mais on a des mythes aussi, des femmes qui ont rapporté « Ouais, mais moi, ça me fait ça après avoir pris du vin, puis là, il n'y a pas de levure dans le vin. » Fait que là, c'est quoi la vraie affaire, là?
C'est que tu es tellement détendue que ta production n'est pas bloquée.
Non? Ah, ça aurait pu. Je trouve ça intéressant comme approche. En fait, c'est le contraire un peu.
Moi, t'as donné ma réponse.
C'est le contraire, ça bloque.
Hein?
Donc, on sait qu'une consommation ne va pas avoir trop d'incidence, mais dès qu'on tombe à deux consommations, puis là, une consommation, c'est pas la bouteille au complet, hein, c'est une coupe. Donc, dès qu'on tombe à deux consommations, on a été capable d'étudier une grosse diminution au niveau de l'ocytocine, qui est l'hormone qui fait en sorte que le lait est capable de s'écouler quand on a un réflexe d'éjection. Donc, avec deux consommations, on n'a plus de réflexe d'éjection. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'on a un bébé qui est au sein, qui tète, qui reçoit beaucoup moins de lait, donc qui va forcément être probablement moins de bonne humeur le restant de la soirée. Puis là, en contrepartie, maman, elle a allaité, mais elle a quand même les seins pleins de lait. Fait que maman, elle se dit « Hey, je suis engorgée, j'ai plus de lait, j'ai une augmentation de ma production de lait. » Fait qu'elle a l'impression finalement que ça a joué positivement sur sa production, alors que ça n'a pas du tout impacté. Puis même que si on pousse ça sur une plus longue période, le fait que bébé n'arrive pas comme ça à bien drainer le sein sur plusieurs jours consécutifs, on pourrait même avoir une diminution importante de la production de lait.
Ça fait du sens, ton affaire!
Et donc ça, on peut dire que c'est surtout là, deux consommations et plus, là.
Il y a certaines femmes qui vont y être plus sensibles puis dès la première consommation vont voir une différence, mais règle générale, c'est plus après deux.
OK. Donc, on peut s'entendre pour dire que si notre souhait, c'est d'augmenter notre production, allons donc voir une consultante en lactation pour qu'elle évalue la situation puis qu'elle nous dise, selon notre situation, c'est quoi la meilleure option?
Oui, on pourrait dire ça. Puis on pourrait aussi le voir, pourquoi je veux augmenter ma production? Oui. A-t-elle réellement diminué? Et si oui, quelles sont les causes?
Exactement. Exactement. Exact. Tout à fait.
Donc ça, c'est pour vraiment l'impact concret là, sur notre bébé quand on prend un verre comme ça ou deux de temps en temps, OK? Mais là, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme maman? J'ai le goût d'en prendre un verre, justement, puis j'ai le goût de diminuer au maximum la quantité de molécules que mon bébé va recevoir. J'ai le goût d'éviter un peu ces effets-là. Fait que qu'est-ce que je peux faire comme maman? Bien, Annie, elle le parlait un petit peu tantôt d'attendre un petit peu avant le prochain boire. Mais ça, c'est possible de le faire avec un bébé qui est un peu plus vieux. Tu sais, notre nouveau-né en bas de 3 mois, bien, on a moins de routine un petit peu. Quand notre enfant vieillit, on commence à le connaître un peu plus puis à être un petit peu plus en mesure de prévoir. On pourrait aussi prévoir un biberon de lait maternel. Dire, je sais que je vais prendre un verre tantôt, ça ne me le tente pas que ça lui donne mal au ventre, fait que le prochain boire, on va lui donner ce lait-là. Je vais exprimer du lait ou pas, tout dépendamment si je me sens engorgée puis que j'ai le goût ou pas. Mais chose certaine, quand je vais tirer, ça se peut que j'en tire moins que de l'habitude. On vient de voir pourquoi. Donc, combien de temps est-ce que je dois attendre avant d'offrir le sein à bébé pour être certaine qu'il ne reste plus d'alcool dans mon lait. Avez-vous le goût de vous mouiller, mesdames?
Ben là, de moins en moins, je vais te dire.
Ben, ouais. Moi, j'aurais dit minimum 3-4 heures.
T'es pas loin, t'es pas loin. C'est de 2 à 3 heures pour la grande majorité des femmes après une consommation. Okay. Là, vous allez voir, si vous allez fouiller un peu sur Internet, il existe des tableaux, comme des chartes en fonction de notre poids et notre grandeur qui nous donnent une idée. Là, c'est sûr qu'on se limite à deux facteurs. On ne prend pas en considération votre état de santé, vos médicaments et tout ça. Mais ça reste que ça nous donne une fichue de bonne idée là, comme parents, à savoir après combien de temps je vais avoir ou pas la présence d'alcool dans mon lit. Fait que ça peut être une des choses qu'on va faire. On entend souvent « le meilleur moment, c'est de prendre ma consommation en même temps que j'allais être bébé pour diminuer les effets ». Bien, en fait, c'est vrai parce que c'est sûr et certain qu'on n'a pas eu le temps de la digérer au moment où bébé est au sein. Donc ça, c'est une vérité. Par contre, il faut quand même nuancer. Si tu as pris 3 verres avant cette fois-là, bien, ça ne marche pas. Fait que, t'sais, faut faire preuve de jugement.
Et faut s'assurer que ton bébé, en fait, il est assez timé dans ses boires aussi. Là. C'est sûr que si une heure après, ton bébé, finalement, il veut une collation, ben là, à ce moment-là, je veux dire, l'alcool va être au pic, j'imagine, au niveau du lait.
Exactement. Mais il faut dédramatiser la chose. On ne va pas laisser notre enfant mourir de faim. Exactement. On ne va pas retarder volontairement un boire parce qu'on a pris un verre. Par contre, il faut juste, comme parent, être prêt à accompagner notre enfant si jamais il y a des troubles digestifs qui se manifestent ou une irritabilité quelconque. Fait que c'est juste d'être un petit peu plus compréhensif quand on comprend ce qui se passe finalement. Puis, pour un peu conclure là, le volet allaitement et alcool, là, si je peux dire, il y aurait aussi toute la notion, en fait, de culture, OK? C'est-à-dire que est-ce que vous ressentez la pression de prendre un verre? Est-ce que vous avez l'impression que si vous dites non à votre chum pour prendre une coupe de vin à votre première sortie au restaurant parce que, justement, ça ne vous le tente pas de la gérer, l'engorgement de lait, puis tout ça, parce que vous avez peut-être envie de rapprochement après, puis ça ne vous le tente pas d'être engorgé puis inconfortable? Est-ce que vous ressentez une pression ou pas? Est-ce que vos amis, vous avez l'impression qu'ils vous en mettent une, puis là, vous vous faites déjà assez juger par rapport à votre allaitement, puis vous en entendez tellement des trucs que finalement, ça vous met de la pression? Est-ce que vous-même, vous vous mettez de la pression par rapport à ce que vous permettez ou pas de l'alcool? Fait que, tu sais, ça, c'est tout, encore une fois, des super de belles pistes de discussion à avoir avec son conjoint, avec ses amis. Puis d'aller chercher des informations auprès de personnes qualifiées, encore là, ça permet une meilleure prise de décision pour ce qui est de consommer de l'alcool, finalement.
Wow! Ben écoute, ce fut intéressant, intriguant, et même, je me rends compte à quel point je suis pas à jour dans mes affaires. Il va falloir que tu me fasses une petite formation, Marie-Ève, éventuellement, pour que je puisse accompagner les mamans. Maintenant, parlons cannabis. J'ai vraiment hâte d'en entendre parler par quelqu'un qui se connaît parce que moi, j'ai aucune donnée. Je sais que moi, dans mon sens à moi, c'est non tout court, non négociable. Mais j'ai hâte de voir tes nuances, peut-être.
Mais c'est quand même assez récent hein, au Québec, la légalisation du cannabis. Évidemment, je ne viens pas de dire que c'est récent que les Québécois consomment du cannabis. Que c'est légal de le faire, c'est assez récent. Donc, vous aurez compris que des données scientifiques, là, ça ne court pas les rues. Par contre, au niveau de nos voisins, là, les États-Unis, il y a certains États où est-ce que c'était déjà légal. Donc, par le passé, là, dans les dernières années, il y en a eu des études qui ont été faites sur l'impact de la consommation de cannabis sur le bébé, puis sur le lait, puis le développement, puis tout ça. Donc, aujourd'hui, on parle en connaissance de cause, mais pas autant qu'on l'est, par exemple, avec l'alcool. Probablement qu'on va en apprendre plus là, au fil des prochaines années. Mais d'entrée de jeu, là, j'ai le goût de vendre le punch puis de dire que oui, la consommation de cannabis et l'allaitement sont compatibles. C'est-à-dire que, un peu comme la cigarette, un peu comme l'alcool, on considère que les bienfaits du lait maternel sur l'enfant sont supérieurs aux méfaits possibles du cannabis. C'est toujours un peu ça, hein, quand on fait des recommandations de santé, on mesure les pour puis les contre, on met ça dans une espèce de balance décisionnelle, puis c'est là qu'on finit par flancher d'un côté ou de l'autre. Donc, l'effet du cannabis, qu'est-ce que ça serait sur le bébé?
Ben, Un bébé qui est un petit peu plus amorphe, j'imagine, comme ça peut détendre le corps, comme ça peut détendre l'atmosphère, finalement. Problème digestif, probablement aussi, irritabilité, comme l'alcool, finalement.
Exactement. Là, c'est ce coup-là, Annie, tu l'as eu. C'est bon.
Hey!
Donc, on va avoir des impacts qui vont être un peu semblables à ce qu'on va avoir chez la personne qui a consommé. Donc, oui, au niveau digestif, ça peut augmenter celui-là, l'appétit de l'enfant, un peu comme chez la personne finalement qui a consommé. Ça peut impacter sur la qualité du sommeil du bébé. Au niveau de la consommation de cannabis, t'sais, depuis tantôt, on parle avec l'alcool, là, t'sais, un verre. Le cannabis, c'est quelle quantité en fait? Tu sais, c'est quoi une consommation de cannabis? C'est quoi qui influence? Après combien je m'arrête? C'est là aussi des fois qu'on sait comme plus trop où se quel pied danser, là.
Oui, et puis aussi, j'ose imaginer que quand les gens consomment du cannabis, ben peut-être pas tout le temps, mais souvent, il y a d'autres personnes qui vont consommer aussi près de nous. Fait que toute cette cet amoncellement de fumée et de vapeur, là, j'imagine que ça peut avoir un impact aussi, peut-être.
Oui, absolument. Donc là, tu amènes la notion de fumée secondaire. L'alcool, c'est une molécule qu'on ingère. C'est un liquide qu'on boit. Le cannabis, on peut l'ingérer aussi. Donc ça, c'est une façon de le consommer qui n'influence pas sur les personnes autour de nous. Mais dès qu'on veut le fumer, qu'on l'inhale finalement, bien, à ce moment-là, on va contaminer notre environnement. Environnement dans lequel il peut y avoir une maman allaitante, une maman enceinte, un bébé, peut-être un nouveau-né. Peut-être un enfant de 2, 3, 4, 5 ans, peut-être aussi un préado. Bref, tout ce beau monde va, oui, être exposé au cannabis, à la molécule de, entre autres, de THC qui est active dans le cannabis. Là, des molécules dans le cannabis, tu sais, on a parlé en première rencontre, tu sais, de la cigarette, mais le cannabis, là, c'est autour de 217 molécules actives différentes. Donc là, vous comprendrez qu'on ne les a pas tous étudiés. Mais la plus connue, c'est le THC. Puis ça, bien, c'est dans la fumée. Puis ça va passer dans le sang au niveau de la fumée secondaire. Donc, si moi, je suis une maman allaitante puis que je veux consommer, on va dire, un joint autour du feu de camp, mais que tout le monde autour de moi consomme un joint, à ce moment-là, oui, ma quantité consommée va être plus importante que si j'ai juste fumé un joint toute seule dans mon salon. Et là, c'est après combien de temps que je peux allaiter puis qu'il n'y en a plus dans mon lait?
Et là là, ben, je vais essayer. Encore une fois, je suis curieuse. Mais je sais que le cannabis reste en moyenne dans le sang 72 heures, si je ne me trompe pas, maintenant, dans le lait. Et là là,
C'est une
peut-être un
bonne question,
24 heures. Un 24 heures.
hein? En fait, là, vous allez probablement tomber en bas de votre chaise. Fait que je vous inviterai à vous asseoir confortablement.
Oui.
Contrairement à l'alcool, la molécule de cannabis va rester très longtemps au niveau du lait. Tu as parlé de sang. Donc, oui, ça va finir par quitter notre sang, mais c'est une molécule, le THC, qui aime beaucoup les milieux gras, les lipides, donc qui va se stocker dans les graisses. Et Dieu sait que le lait maternel est une très belle source de gras. Un gras hein, c'est pas du McDonald's, là, c'est un gras qui est parfaitement adapté aux besoins de votre bébé puis qui est même favorable à sa santé. Mais le cannabis va aimer, le THC du cannabis plutôt va beaucoup aimer s'y stocker. On pourrait retrouver la présence de cannabis de 6 heures, de 1 heure après avoir consommé jusqu'à 6 jours après avoir consommé. Et on a d'autres études qui ont démontré après plusieurs semaines.
Aïe,
Là, on parle de une seule consommation. 6 jours plus tard, maman avait encore du THC actif dans son lait maternel dans une étude.
là, on parle de un joint, par exemple.
Une consommation. Quand on parle de présence sur plusieurs mois, à ce moment-là, on parle d'une consommation qui est plus régulière. Mais un joint, on a retrouvé la présence après 6 jours. Donc, au niveau du cannabis, contrairement à l'alcool, il y a vraiment, vraiment une grosse relation entre la fréquence de la consommation slash exposition. Donc, si maman ne consomme pas beaucoup, mais que son conjoint, lui, consomme dans l'appartement, il faut le considérer, je vous rappelle. Mais à ce moment-là, on a vraiment un gros lien. Donc, plus maman est exposée sur une base régulière, plus la concentration dans son lait est importante. versus une consommation occasionnelle. Oui, on va avoir la présence sur longtemps, mais en plus petite dose. Donc, c'est vraiment, vraiment un équilibre qui est très difficile à prévoir et à calculer. Donc, encore là, c'est quoi qu'il faut? C'est comment qu'on fait pour prendre notre décision? Est-ce qu'on est prêt à dealer avec les effets possibles sur notre bébé à court terme? Est-ce que si on veut consommer sur une base plus régulière, on est prêt à dealer avec les effets sur le développement à long terme? Puis, tu sais, c'est quoi qu'on est mieux? On est-tu mieux de prendre un verre de vin finalement ou prendre un joint? T'sais, des fois, c'est de faire des choix comme ça. Puis, je vous répète que les données ne sont pas si avancées que ça non plus en termes de connaissances. Fait qu'on avance doucement, là.
Là, je vais aller encore plus profondément parce que ça m'amène une question. Un couple, là, justement, qui se disent, ben nous, on fume dans l'appartement quand notre bébé est dans sa chambre, la porte fermée, puis on ne fume pas en sa présence. Bon, est-ce que la fameuse fumée tertiaire, peut-être, qu'on pourrait appeler, peut avoir un impact?
Oui. Oui, c'est un petit peu les mêmes recommandations que pour la cigarette. On va recommander de consommer le cannabis à l'extérieur. Idéalement, on va recommander de se changer de vêtements puis de se laver les mains avant de manipuler notre bébé pour limiter au maximum son exposition à la molécule, finalement.
Et ça, même si c'est une mère qui est non allaitante, là.
Oui.
C'est ça ma question, là. OK.
Oui.
OK.
Absolument. Là, on parle d'allaitement aujourd'hui, là, mais ça s'applique, ça, dans ce contexte-là, à un petit peu plus large. Puis là, tu sais, dans ton exemple, là, Cathy, que tu viens de nommer, moi, il y a quelque chose que je trouve important qu'on aborde aujourd'hui ensemble. Tu m'as parlé d'un couple qui déciderait de consommer ensemble. Donc là, il y a toute la notion de vigilance qu'il faut prendre en considération. Puis tu sais, d'entrée de jeu, on a parlé de la fameuse affirmation du Dr Newman, un éminent spécialiste en allaitement, qui a dit « Tu peux allaiter tant que tu es capable d'enligner ton bébé ». OK, mais là, la vigilance parentale. Si les deux parents, on a consommé, que ce soit de l'alcool ou du cannabis, est-ce qu'on est en mesure de prendre soin de notre bébé? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Puis, tu sais, quand on parle de planifier pour que ça soit agréable, la vie familiale, bien, c'est le genre de choses que, oui, il faut prendre en considération. Qui va s'occuper des enfants puis du bébé? Là, on dit bébé, mais les enfants aussi plus vieux, là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment aborder en couple pour prévoir nos sorties. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'un doit rester absolument à jeun puis l'autre pas. Là, vous comprendrez qu'il y a plein de situations, plein de nuances à considérer. Mais chose certaine, si on parle de, par exemple, du cannabis, bien, on le sait que l'impact, ça va être une diminution de l'attention, une diminution de la concentration, un retard au niveau de la prise de décision. Mais ça, là, cette prise de décision-là, Dieu sait que comme parent, on en a plusieurs à prendre. Le lait, il est-il assez chaud, trop chaud? J'ai-tu bien préparé mon biberon si j'allaite pas? Si j'allaite, mais que je réchauffe un biberon de lait maternel, je l'ai-tu bien préparé? Situation d'urgence, mon enfant s'est fait mal, je vais-tu bien agir avec lui? Donc, tu sais, on pourrait comme pousser vraiment plus loin nos réflexions. Au niveau du sommeil aussi, est-ce que je peux partager mon lit? Tu sais, moi, mon enfant, il n'a jamais dormi dans sa bassinette. Mais là, j'ai consommé. Est-ce que je peux faire du cododo si j'ai consommé? Bien évidemment que la réponse, c'est non, parce que ça va vraiment altérer notre état d'alerte. Donc là, on compromet la sécurité de notre enfant. Mais pour avoir cette réflexion logique-là, c'est difficile de l'avoir quand on a consommé, parce qu'on est un petit peu plus sur le mode party, avoir du plaisir.
Eh là là! Bien écoute, Marie-Ève, tu nous as apporté de belles grandes choses. J'ai beaucoup, 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 beaucoup appris. Ça porte à réflexion. Pour vrai, là, c'est le fun de t'entendre, c'est le fun d'avoir ces nouvelles notions-là. C'est pas, il y a 8 ans, c'était pas autant détaillé, je te dirais, pour mon plus grand, pour mon plus vieux. Je pense que la sécurité des enfants a bien meilleur goût que peu importe ce que tu as envie de fumer ou de boire, hein.
Il n'y en a pas de bonne ou de moins bonne réponse. Dans les deux cas, au niveau médical, on recommande de poursuivre l'allaitement parce que les bienfaits sont plus importants. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est juste de faire, tu sais, en ce moment, ce que tu vis, c'est comme justement une remise en question puis une analyse. Puis c'est ça qu'il faut faire comme parent, se poser des questions, aller chercher des données, prendre notre décision plus que de se taper sa tête pour ce qu'on a déjà fait par le passé. Hein, on avance, on ne recule pas. Puis arrêter aussi de taper sa tête des autres mamans puis de juger. « Ouais, mais moi j'ai entendu Marie-Ève parler dans un podcast, là, puis là, en ce moment, là, ce que tu fais à ton bébé, c'est pas bon. » Ben non, pas forcément. C'est juste qu'elle, elle a peut-être entendu le même podcast que toi, mais elle a retenu d'autres informations puis elle a choisi d'autres combats que toi. Fait que l'acceptation, ça a bien meilleur goût pour toutes les sauces, finalement.
Vraiment. Puis tu sais, à chacun notre vision. Puis tu sais, c'est ce que je ramène souvent avec Cathy, hein, peut-être que toi, pour ta famille, c'est ces valeurs-là que tu veux apporter, tes convictions. Bien, peut-être que pour une autre famille aussi, c'est différent. Moi, c'est pas parce que je permets à mon enfant de grimper dans les arbres sans corde, peu importe, que toi, tu vas être à l'aise de le faire. Fait que non, il faut. Ben c'est des belles pistes de réflexion, vraiment, Marie-Ève. Un énorme merci d'avoir été avec nous. Ça a été le fun!
Oui, super! Première expérience pour moi, hein, d'ailleurs, en podcast. Merci beaucoup de l'invitation à vous deux. J'ai vraiment apprécié mon expérience.
Tu as l'air d'avoir fait ça toute ta vie.
Oui.
Vraiment.
Ben écoute, Marie-Ève, là, elle s'en vient pas mal populaire là, sur la map. Elle a des demandes d'entrevue. Elle passe à la télé. Dernièrement, tu as eu beaucoup de demandes d'entrevue suite à la fameuse vaccination là, contre la COVID-19 pour les femmes enceintes allaitantes. On t'a vu à la télé, on t'a vu en live un peu partout dans les pages de maman. Tu es venue faire un tour dans notre groupe VIP aussi. Là, tu es sur notre podcast, puis je pense que c'est peut-être pas la dernière fois que tu vas venir collaborer avec nous. On a même un atelier conférence avec toi sous peu. Pour vrai, merci Marie-Ève d'embarquer dans nos folies. Tu vas voir, on a tout le temps... un coup qu'on est partis, nous autres, là, on a plein d'idées.
Mais c'est quelque chose que je partage avec vous. Alors, ça va me faire plaisir de cogiter avec vous puis de partager nos réflexions avec toutes les familles qui ont la chance de nous écouter puis de grandir dans leur rôle de parent finalement à nos côtés.
Puis justement, où est-ce que les parents ils peuvent te retrouver, Marie-Ève? Tu sais, t'es fondatrice de Symbiose. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement pour qu'on puisse aller te poser des questions, les parents qui sont intéressés à travailler avec toi.
Oui, mais en fait, un peu comme Katia disait, oui, je vais animer certains ateliers, mais pour des gens qui ont des besoins plus spécifiques, que ce soit en lien avec leur allaitement ou plutôt avec les soins infirmiers en périnatalité, là, postpartum, plaie césarienne, accompagnement avec les vaccins, la DME, les purées, bref, tout ça. Les gens peuvent me trouver, j'ai un site internet, www.sain, comme un sein d'allaitement, hein, je suis thématique. tradunionbiose.com ou encore sur Facebook où est-ce que je vais être aussi quand même assez active. D'ailleurs, j'ai à toutes les semaines des mini-capsules mythologie théorie comme on a fait aujourd'hui. Alors souvent, c'est des petites capsules qui sont bien appréciées. Et au niveau de mes services, ben j'ai la chance d'offrir des services à domicile pour les familles de la Mauricie-Centre du Québec. Je vais aussi offrir des services en clinique. Ma clinique a ouvert ses portes il y a environ 3 semaines, donc c'est tout nouveau, c'est mon nouveau bébé. Et pour les gens d'un petit peu partout au Québec, j'offre aussi les services en télésanté. Alors, c'est franchement intéressant, là. J'ai eu la chance d'accompagner Sept-Îles, Baie-Comeau, puis des régions un peu plus éloignées.
Ah, ben c'est le fun! Écoute, Marie-Ève, un énorme merci! C'est sûr qu'on va te réinviter pour venir nous parler du jugement face à l'allaitement, les biberons. Je pense qu'on va mettre ça en place là, éventuellement, Cathy et moi. Alors, je vais vous souhaiter une super de belle journée, puis on se retrouve pour un autre podcast mardi prochain. Merci tout le monde!
Bye-bye!
Un gros merci d'avoir été avec nous. Si t'en as l'envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également Site Exact, qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Site Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca.